Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Quel moment de célébration dans la présence de Dieu. Quel moment d'adoration, de louange. Quel culte. Quelle présence de Dieu. C'est ce qui est agréable à Dieu. Vous savez, vous êtes un peuple heureux. Parce que vous êtes de la borne. Et quand vous vous présentez à l'extérieur comme étant de la borne, vous êtes respecté. Vous êtes... vous êtes recommandable. Vous êtes acceptable. Parce que vous êtes de la borne. La borne n'est pas n'importe quelle église. La borne, c'est une marque. La borne, c'est une réputation. Et la borne, c'est un témoignage. Et nous voulons l'occasion, moi et ma chère épouse, Maman Costa, qui m'accompagne depuis 36 ans, et dire un grand merci au révérend Joseph et son épouse qui nous accueillent et en, l'ensemble de l'équipe qui l'entoure, qui l'accompagne dans ce travail. Révérend, vous êtes un homme humble, simple, mais puissant. Vous êtes de ceux-là qui honorent aujourd'hui et dans ces temps difficiles l'Église du Congo. Vu de l'extérieur, il y a un peu de tout, mais vous êtes de ceux-là dont Dieu a parlé en disant, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous pastorez votre peuple dans les règles de l'art. Un homme intelligent, un homme d'excellence, un homme de distinction et vu de l'extérieur du Congo, nous vous apprécions beaucoup et nous vous respectons beaucoup. Puisse le Seigneur garder encore cet homme longtemps, garder son épouse longtemps. Puisse le Seigneur le bénir. Je vous invite à acclamer le nom de Jésus pour la vie de son serviteur. Le révérend Joseph Bondo et son épouse acclament le nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi. En venant à ces lieux, nous avons cru que c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici le lieu de la révélation de ta parole. Accorde-nous ta faveur ces jours. Ta parole est la vérité. Sanctifie ton peuple par la vérité. Et dans les noms de Jésus, à la gloire du Père. Amen. Ah, ce matin, le Seigneur nous envoie pour vous annoncer une bonne nouvelle du royaume de notre Dieu, une parole pour restaurer des vies, une parole pour guérir, une parole pour libérer non seulement des vies, mais des familles, mais au-delà de famille, même la nation. Ah, vous savez, s'il y a une dernière manœuvre, et dans la ruse de l'ennemi, dans sa stratégie de destruction qu'il a larguée ces derniers temps sur le monde, sur toutes les institutions, en commençant par la famille, l'institution mère de toutes les institutions même étatiques, économiques, sociales, financières, et que sais-je encore, la chose que le diable a semée et continue à larguer pour nous éloigner de Dieu, nous priver des bénédictions de Dieu, c'est les conflits. Les conflits. Les conflits à tous les niveaux de la société. Les conflits dans les couples, les conflits dans les familles, les conflits entre frères et sœurs, les conflits entre parents, les conflits entre belles-mères, belles-sœurs, les conflits entre les gouvernants, les conflits à tous les niveaux. Conflits de séparation, conflits de succession, conflits. Et les conflits affectent même la maison de Dieu. Les conflits affectent même et la vie des chrétiens. Et le refus de toute réconciliation en cas de conflit conduit à ce que nous appelons le non-pardon. Le non-pardon, le refus de pardonner. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, ce matin, notre message est intitulé « Comment être libéré du non-pardon ?» Comment être libéré ? Et cette libération est en soi une guérison pour l'homme. Comment être libéré du non-pardon ? Nous voulons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, et nous lisons le verset 12. Il est écrit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » La deuxième lecture, dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, nous lisons le verset 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et pour ma part, ce que je pardonnais, si je pardonnais quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Je vais m'arrêter à ces deux lectures. Le pardon, c'est quoi? Rappelons la notion du pardon et aussi celle du non-pardon. Pardonner au sens de la parole de Dieu, c'est poser un acte volontaire de libérer spirituellement une personne qui vous a offensé, qui vous a fait du mal, qui vous a causé du tort.
Lorsqu'une personne vous offense, lorsqu'une personne vous cause du tort et que vous refusez de le pardonner, cette personne est votre prisonnier. Cette personne est votre otage tant que vous ne l'avez pas pardonné. Alors quand vous pardonnez cette personne, vous les libérez. Vous les sortez de la captivité. Donc pardonner, c'est libérer une personne. Spirituellement. Qui vous a offensé? Et le refus du pardon ou le non-pardon, contrairement au pardon, c'est retenir cette personne qui vous a fait du mal ou qui vous a offensé dans les ressentiments ou l'amertume dans votre cœur. Et donc, quelle que soit la raison pour laquelle le mal a été fait et dont vous avez été victime, quelle que soit la gravité dommageable de la chose qu'on vous a faite, quand vous refusez de pardonner, vous cultivez l'amertume dans votre cœur, le ressentiment. Et quand cela demeure en vous, cette amertume, ces ressentiments va constituer en vous une forteresse spirituelle du non-pardon. C'est cela que nous appelons le non-pardon. Bibliquement, le non-pardon, c'est une rébellion contre Dieu. Le non-pardon, c'est un péché. Quelqu'un dira, c'est moi qui suis la victime. C'est moi qui a perdu. C'est moi qui ai raison. Mais la raison par rapport à quoi? La victime par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu, Dieu dit, pardonnez-vous les uns les autres. Nous arrivons dans les textes de Matthieu, au chapitre 6, verset 12. Où le Seigneur nous apprend à prier. La prière modèle, pilote, sur la base desquelles toutes les prières vont être formulées ou adressées à Dieu. On peut formuler des prières de louange, des prières d'adoration, des prières de combat, des prières d'intercession, des supplications, mais le modèle de toutes ces prières, c'est Matthieu, chapitre 6. Et c'est dans ce modèle que le Seigneur nous apprend à prier ainsi. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous, Seigneur, le mal que nous te faisons, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous font du mal, à ceux qui nous offensent. Et vous allez convenir avec moi que la notion du pardon va, n'est-ce pas, s'illustrer sur la marque de la croix. Quand vous avez la croix, parce que la croix est l'origine du pardon. C'est là où le Seigneur s'écria, s'adressant à son Père. Père, pardonne-leur, car ils sont ignorants, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est à la croix. Mais la croix est formée, n'est-ce pas, de deux tronçons en bois. Vous avez un tronçon vertical qui monte et un tronçon horizontal. Et lorsque nous savons que l'origine du pardon, c'est la croix, les tronçons verticaux qui montent représentent le pardon dont nous avons besoin, nous, enfants de Dieu ou toute personne, de la part de notre Père, de la part de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. C'est le pardon vertical, le pardon que nous recevons de Dieu matin, midi, soir, tous les jours de notre existence. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Le pardon vertical. Et ce pardon vertical n'est possible que si nous acceptons le pardon horizontal. C'est-à-dire qui va dans le sens de mon prochain. Qui va à ma gauche, qui va à ma droite, qui va devant moi et qui va derrière moi. Voilà le sens de ce texte de Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cela veut dire quoi? Que quand je vais solliciter le pardon vertical à Dieu, Dieu regarde mon état d'esprit, mon état d'âme, avant de solliciter le pardon vertical. Est-ce que le pardon horizontal, je l'accomplis? Si je ne l'accomplis jamais, le pardon vertical ne vient pas sur moi. Je ne peux pas en bénéficier du pardon vertical si je n'accomplis pas le pardon horizontal. Et le diable sait qu'endurcir le cœur des enfants de Dieu, endurcir le cœur des chrétiens, le maintenir dans un état d'esprit de non-pardon, du refus de pardon, les empêcherait de bénéficier du pardon de Dieu. Les empêcherait de bénéficier des promesses de Dieu et des bénédictions de Dieu. Voilà pourquoi, Église de Dieu, les conflits n'ont pour source que le diable. Les conflits n'ont pour source que le monde des ténèbres. Les conflits n'ont pour source que l'ennemi. Et alors, à partir de ce moment-là, nous allons comprendre que le pardon de la croix a pour conséquence l'annihilation des actes dont les ordonnances nous condamnaient. Et la même sorte que le pardon de la croix a fait annuler sur nous les lois établies, les actes dont les ordonnances nous condamnaient, la Bible dit, il l'a effacé. Et quand on efface, on est dans l'oubli. On ne peut pas retrouver une phrase qui a été effacée. On ne peut pas retrouver un mot qui a été effacé. Mais pardonner veut dire pardonner l'autre, pardonner son frère, sa sœur, pardonner son prochain veut dire effacer la faute dont vous avez été victime. Oublier. Et généralement, j'entends des chrétiens dire, je t'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Je me souviendrai toujours de ce que tu m'avais fait. Je te pardonne quand même, mais, alors ce n'est plus le pardon. Parce que le pardon traduit l'oubli, l'annihilation de la faute, l'annihilation de l'infraction. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de la grâce présidentielle, le prisonnier doit quitter la prison et sa condamnation est annulée. Et donc, comprenez que lorsque nous pardonnons, nous sommes appelés à oublier, à laisser le passé au passé. La Bible dit, ne pensez pas aux événements du passé, mais regardez le futur parce que je veux faire avec vous des choses nouvelles. Le pardon libère la joie. Le pardon libère la paix. Mais le pardon libère aussi la puissance de Dieu sur nous. Mais il y a un lien de causalité entre le refus du pardon, le non-pardon, quand on cultive l'amertume, on souffre soi-même, quand on cultive la haine, la colère, on souffre soi-même. On fait de l'autre notre prisonnier parce que nous avons refusé de le pardonner. Nous avons retenu son infraction, la faute qu'il a commise, nous l'avons retenu. Nous avons refusé de le libérer. Il est notre captif. Mais nous nous faisons en même temps captifs nous-mêmes. À titre d'exemple, vous avez un problème avec une tierce personne. Et cette personne vous a fait du mal, vous ne l'avez jamais rencontrée. Souvenez-vous que par hasard, vous vous rendez quelque part et que dans un couloir, à un moment inattendu, vous croisez votre ennemi. Vous croisez votre bourreau. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous pouvez ressentir? Un battement du cœur. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Vous allez ressentir. Je vois des bien-aimés secouer leur tête. Si vous êtes avec moi, faites cela. Amen. Vous croisez quelqu'un à qui vous n'avez jamais pardonné et que vous ne vouliez pas rencontrer, mais vous les croisez par hasard. S'il est dans le même bus que vous, vous allez descendre à l'arrêt où vous n'avez pas prévu descendre. Parce que sa présence devient insupportable. Voyez-vous, il souffre, mais vous aussi, vous souffrez. Donc, en refusant de pardonner, vous vous faites souffrir vous-même. Il n'est pas libre, vous n'êtes pas libre. Il est votre captif et vous êtes devenu son captif. Voilà pourquoi le pardon libère la paix, la quiétude, la joie. Mais je vais aller aux conséquences du non-pardon pour être dans le temps. Qu'est-ce qui se passe quand on refuse de pardonner pour un enfant de Dieu, dans sa relation avec Dieu, dans sa relation avec le Seigneur? Dans l'évangile, dans l'épître, Jacques, chapitre 5, verset 18, la Bible parle de la prière du juste. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et Dieu dit qu'il exauce le prière des justes. Quand vous vivez dans l'amertume du non-pardon, dans les ressentiments du non-pardon, et que vous vous adressez à Dieu, vous n'êtes plus dans une position de justice. Seule la foi ne suffit pas pour que nos prières soient exaucées. Il est important pour que nos prières soient exaucées lorsque nous nous adressons à Dieu, que nous nous tenions devant lui dans une position de justice. Et le refus du pardon ou le non-pardon ne nous met pas dans une bonne posture lorsque nous nous présentons devant Dieu. Voilà pourquoi le non-pardon a pour conséquence, entre autres, dans notre relation avec Dieu, c'est que le manque de pardon peut amener, premièrement, lorsque nous refusons de pardonner, nous sommes mal en pointe dans la bataille spirituelle. Nous sommes mal en pointe dans les combats spirituels. J'entends bien les gens faire des prières de combat, chasser des démons, anéantir les camps de l'ennemi. Mais dans quelle position? C'est le deuxième texte que nous venons de lire. Des Corinthiens, au chapitre 2, verset 10. Ce texte dit, nous l'avions déjà lu, nous allons les répéter pour une bonne compréhension. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et pour ma part, c'est Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe. Et Dieu parle à l'église ce matin. Pour ma part, ce que je pardonnais, si je pardonnais quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le refus du pardon donne l'avantage à Satan sur toi. Tu ne peux pas demeurer dans le refus du pardon et gagner une bataille spirituelle face à Satan. Même pas face aux démons. Il n'est pas possible. Il dit, je pardonne afin que Satan n'ait pas l'avantage sur moi. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Ça, c'est une des conséquences spirituelles du refus de pardonner. Une des conséquences spirituelles. Donner l'avantage à Satan dans la bataille spirituelle. Et le non-pardon, comme conséquence, entre autres, deuxièmement, nous pouvons laisser le ciel être fermé sur nous. Parce que nous refusons de pardonner. Et quand les cieux sont fermés sur nous, notre adoration, notre louange, nos prières ne serviront à rien. Parce que nous ne pouvons pas atteindre Dieu et Dieu ne peut pas nous toucher, nous atteindre. Quand nous refusons de pardonner, quand nous nous maintenons dans cet état d'esprit du non-pardon, du refus du pardon, nous fermons le ciel. Le ciel ne s'ouvre pas dans l'amertume, dans la haine. Dans Marc, évangile de Marc, Marc chapitre 11, verset 26. Deuxième conséquence, nous fermons le ciel sur nous quand nous refusons de pardonner. Marc 11, verset 26. Il est écrit, mais si vous ne pardonnez pas, si vous ne pardonnez pas, qui? Celui qui vous a offensé. Votre ami, votre frère. Si vous ne pardonnez pas, pardonnez pas votre assassin, votre bourreau, votre violeur, votre incestueux, si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Qui peut se présenter devant Dieu sans faute? Si vous ne pardonnez pas, les cieux sont fermés sur vous. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Autre conséquence du non-pardon. Et par voie des conséquences aussi, lorsque le ciel est fermé sur nous, les conséquences sont néfastes dans tous les domaines de notre vie. Il peut s'agir du domaine des émotions, émotionnelles, sentimentales, financières, professionnelles, santé. Et nous pouvons nous mettre dans une situation de blocus et même de nos prières. Autre conséquence du refus du pardon, le non-pardon peut être une source de diverses maladies dans nos vies. Le non-pardon est une blessure intérieure. Et comme vous le savez, dans les domaines du combat spirituel, les blessures intérieures sont des portes ouvertes aux démons. Mais au-delà du fait que les blessures intérieures soient des portes ouvertes aux démons, c'est-à-dire que vous êtes livré à toutes sortes d'attaques maléfiques. Mais les blessures intérieures engendre aussi de maladies psychosomatiques, telles que la dépression, des problèmes cardiaques et tant d'autres. Les études ont été menées pour dire que les cancers peuvent aussi avoir pour origine les blessures intérieures. La liste des maladies psychosomatiques est longue, ce n'est pas le sujet du jour. Mais juste vous dire que vous pouvez souffrir des maladies psychiques, psychosomatiques, mais aussi des maladies manifestement physiques à cause du non-pardon, à cause du refus du pardon. Autre conséquence, le non-pardon peut nous conduire à reproduire les mêmes mal dont nous avons été victimes. Le non-pardon, le refus du pardon, peut amener l'homme à reproduire le même mal dont il a été victime. Nous avons dans les milieux de la criminalité, les milieux judiciaires, des fois beaucoup de cas d'école, des enfants qui sont devenus ce qu'ils sont parce qu'ils ont été victimes de certaines atteintes à la pudeur. Il y a des personnes qui sont devenues méchantes parce qu'ils ont été victimes de la méchanceté. Il y a des personnes qui sont devenues infidèles à leurs épouses, à leurs époux, parce qu'ils ont été victimes de l'infidélité. C'est le résultat du non-pardon. Et quand on ne pardonne pas, on peut tôt ou tard reproduire, ne serait-ce que par vengeance, ne serait-ce que par orgueil, le feu que vous avez, vous, en son temps, reproché à votre bourreau. Et je voudrais, ce matin, vous amener à croire à la puissance du sang de Jésus qui vient nettoyer, qui vient laver nos cœurs de blessures, de l'amertume. Il est vrai, des fois la souffrance est telle qu'il n'est pas facile de pardonner. Humainement, la souffrance est tellement atroce, ou elle a été tellement atroce. Il y a des personnes qui sont dans la rue parce qu'ils ont perdu des biens, parce qu'ils ont été victimes des confiscations de leur héritage par des familles. Il y a des familles qui sont déchirées, des familles qui ne peuvent plus se retrouver à cause des conflits de succession. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quel est mon intérêt en faisant cette démarche de pardonner, libérer mon cœur? Mon intérêt, c'est ma relation avec Dieu. Mon intérêt, c'est le royaume de Dieu. Mon intérêt, c'est mes promesses qui doivent trouver leur accomplissement dans ma vie. Mon intérêt, c'est ma destinée. Mon intérêt, c'est ma réussite. Mon intérêt, c'est mon mariage. Mon intérêt dans tout cela, c'est ma vie. Ce n'est pas l'intérêt de mon bourreau. C'est mon intérêt. Moi qui pardonne, moi qui libère mon cœur au pardon. Mon intérêt, c'est le ciel. Mon intérêt est que le ciel soit ouvert. Quand je crierai vers Dieu, Dieu exaucera mes prières. Je serai dans une position de justice. Mon intérêt est là. Mon intérêt, c'est ma santé. Mon intérêt, c'est ma guérison. Laisse ton intérêt passer avant toute chose. Que le Seigneur te bénisse.
Gloire au Seigneur. J'aimerais que nous puissions prendre du temps dans la prière. Je suis convaincu que Dieu a parlé, qu'il y a des gens qui traînent des problèmes dans leur cœur, des problèmes dus au non-pardon, parce que ces gens n'ont jamais pardonné. Quand ils voient leur bourreau, eh bien, ils n'ont d'autre sentiment que d'en finir un jour avec lui. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé. Alors, inclinons nos têtes. Je voudrais vous donner l'occasion de vous tenir très objectivement, et ce, dans la sincérité de votre cœur, vous tenir devant Dieu, laisser le Saint-Esprit vous interpeller à partir de cette parole. Regarde autour de toi, regarde devant toi, regarde toutes ces blessures qu'il y a en toi dues au fait que telle ou telle autre personne est passée quelque part dans ta vie. Tu en souffres tellement que tu n'as pas la force de pardonner. Tu en souffres tellement que tu trouves que ça serait injuste de lui accorder ton pardon. Mais le premier qui souffre, comme nous venons de le voir et de l'entendre, eh bien c'est toi. Vous voyez, il est ton esclave, il est ton prisonnier, comme tu l'es pour lui. Alors aujourd'hui, le Seigneur te tend la main. Il voudrait te donner la force de pardonner à cet homme qui t'a violenté un jour alors que tu étais encore jeune fille, la force de pardonner à telle ou telle autre personne qui est à la base de la perte de tes biens, pardonner à ton frère ou à ta sœur, avec qui tu as eu des problèmes à cause de l'héritage. Depuis le décès de vos parents, eh bien, les conflits sont nés, chacun essaie de tirer le drap de son côté, et depuis, le courant ne passe plus, vous ne vous parlez plus, le cœur reste amer. Eh bien, ce matin, le Seigneur vous donne l'occasion de d'abord de vous repentir pour n'avoir pas accordé le pardon, et puis ensuite de pardonner à la personne, à votre frère, à votre sœur, à votre patron, à votre chef, à la personne qui vous avait fait du mal, afin de vous lancer dans une nouvelle vie avec toutes les conséquences merveilleuses que cela finira par entraîner, comme nous l'avons vu. Tu as tout intérêt à pardonner. Alors s'il y a quelqu'un qui aimerait que nous prions pour lui, pour que le Seigneur lui donne la force de pardonner, eh bien je lui demanderai simplement de se lever pendant que nous avons nos têtes baissées, nos têtes inclinées. Merci pour les personnes qui se lèvent. Merci, le Seigneur est là. Merci, c'est une parole puissante. Le pardon libère, est une puissance qui libère. Le pardon ouvre la porte à la restauration. Le pardon donne l'occasion au Seigneur d'étendre de nouveau sa main sur nous pour poursuivre ce travail de régénération, de transformation en son image. Oui, merci pour toutes ces personnes qui se sont levées. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur. Pardonne. Ne garde pas tout ça dans ton cœur. Tu es en train de travailler à ta propre destruction. Tu es en train de mettre toi-même, d'agrandir ce fossé qu'il y a entre toi et Dieu à cause de ce manque de pardon. Alors je vous donne l'occasion, vous qui vous êtes levés, de commencer à parler au Seigneur, de dire: Seigneur, je reconnais que je n'ai jamais pardonné à telle ou telle autre personne qui m'a escroqué, telle ou telle autre personne qui est à la base de ma faillite dans les affaires. Je n'ai jamais pardonné à telle ou telle autre personne. Alors, Seigneur, pardonne-moi pour n'avoir pas pardonné. Pardonne-moi pour avoir gardé tout cela dans mon cœur. Et puis ensuite, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de pardonner à toutes ces personnes. Oh, alléluia. Oh, merci. Pendant que nos amis qui se sont mis debout prient, implorent la grâce de Dieu, je voudrais que ceux qui sont restés assis puissent le soutenir dans la prière, puissent implorer Dieu pour qu'il puisse aider toutes ces personnes qui se sont mises debout. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Parlons tous ensemble au Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur pour le message de ta parole. Tu sais combien nous avons besoin, Seigneur, du pardon. Du pardon par rapport à toutes ces personnes qui nous ont fait du mal. Donne la force à toutes ces personnes qui se sont mises debout pour implorer ta grâce. Donne-leur la force de pardonner à tous ceux qui leur ont fait du mal, à tous ceux qui sont à la base de tel ou tel autre malheur dans tel ou tel autre domaine de leur vie. Seigneur, accorde-leur cette grâce. Oh, merci. Merci non seulement de pardonner ces personnes, merci également de leur donner la force de pardonner à ceux qui leur ont fait du mal, à toutes ces personnes qu'elles ont peut-être haïes. Seigneur, en se transformant elles-mêmes en bourreaux, oui, pardon. Seigneur, c'est devant toi que nous nous tenons. D'abord pour te dire merci pour ce message puissant, ce message qui nous montre toute l'importance, Seigneur, de pardonner à ceux qui nous offensent, de pardonner à ceux qui nous font du mal. Mais tu sais aussi combien ce n'est pas facile, par nous-mêmes, de pouvoir accorder ce pardon. Voilà pourquoi je prie au Seigneur de fortifier ses amis qui se sont levés. Voilà pourquoi je prie pour que tu les aides à tourner la page, à la déchirer. Ils ne se souviennent plus du mal que les uns et les autres leur ont fait, mais qu'ils aient désormais leurs yeux fixés sur toi. Oui, qu'ils pardonnent. Merci Seigneur de leur pardonner. Merci pour tout. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de ton pardon, de ta force pour pouvoir pardonner aux autres. Merci pour tout. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur.